de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. Indonésie et Lituanie collaborent pour améliorer l'infrastructure numérique. Indonésie développe un écosystème local de véhicules électriques en accueillant les initiatives privées. Indonésie continue de jouer un rôle dans la gestion de la question de la Birmanie à travers la Troïka. Présidence prépare à anticiper l'influence politique sur l'économie nationale. Envoyé palestinien au Conseil de sécurité de l'ONU déclare que Gaza est actuellement l'enfer sur terre. Indonésie et Australie discutent d'une coopération accrue en matière d'affaires consulaires. Et Acobike 2023 apporte des effets multiplicateurs positifs dans le tourisme. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. La République d'Indonésie a collaboré dans les domaines des données et de la cybersécurité avec la République de Lituanie pour améliorer l'infrastructure numérique. La ministre coordinatrice des Affaires économiques, Erlangar Tanto, a déclaré que l'Indonésie était ouverte à discuter des opportunités de coopération considérant que l'infrastructure numérique constitue un avantage de la République de Lituanie. Citant un communiqué de presse du ministère de la coordination des affaires économiques lors de la visite récente du ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, à Jakarta, Erlangar Tanto a expliqué que le gouvernement indonésien souhaitait développer la coopération en matière de protection des données et des droits d'auteur. Il a ajouté que l'un des objectifs de l'Indonésie est de créer zéro espace vide sur toutes les îles indonésiennes. En outre, Erlanga a exprimé l'espoir que la Lituanie puisse soutenir le processus d'adhésion de l'Indonésie à l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Lituanie, Gabrielius Landsbergis, a déclaré que le gouvernement lituanien était prêt à aider l'Indonésie à remplir toutes les conditions d'adhésion en tant que membre de l'OCDE. Le ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement Kemenko Marves salue l'initiative de l'entreprise privée AstraZeneca de travailler avec l'industrie locale pour développer un écosystème de véhicules électriques dans le pays. L'adjoint à la coordination de la gestion de l'environnement et des forêts du ministère de coordination des affaires maritimes et de la pêche, Nani Hendiarti, lors du lancement du véhicule électrique AstraZeneca au ministère de coordination du bâtiment Marves. À Jakarta, a expliqué mardi que des voitures et des motos électriques fabriquées par AstraZeneca avaient été exploitées dans plusieurs régions de l'île de Java. Il a ajouté qu'il y avait également une demande pour que les îles de Sumatra et Sulawesi développent de nouvelles industries locales pour répondre à cette demande. Citant un rapport de l'agence de presse Antara, le gouvernement indonésien, à travers l'accord de Paris, s'est engagé à réduire les émissions de 31,89%, soit environ 915 millions d'euros, grâce à ses propres efforts. Pendant ce temps, avec l'aide d'un soutien international, l'objectif de réduction des émissions sera d'environ 43%, soit 1240 millions de tonnes de réduction des émissions. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie continuerait de s'efforcer de gérer la crise en Birmanie par le biais du mécanisme de la Troïka de l'ASEAN, notamment en encourageant la mise en œuvre du consensus en 5 points, 5PC, qui n'a pas encore atteint son objectif. Il a transmis dans ses remarques lors du 7e forum de médias de l'ASEAN au secrétariat de l'ASEAN à Jakarta mardi 31 octobre. Dans ce cas, la Troïka est un mécanisme de consultation informel au sein de l'ASEAN, composé des présidences actuelles, passées et futures de l'ASEAN. Retno a déclaré que, grâce à son rôle au sein de la Troïka, l'Indonésie veillera à ce que l'accès à l'aide humanitaire continue d'être progressivement élargi, y compris dans les zones de conflit actifs. En Birmanie, le 5PC convenu en 2021 appelle à la fin de la violence au dialogue avec toutes les parties, à la nomination d'un envoyé spécial pour faciliter la médiation et le dialogue, à permettre l'assistance qu'à permettre aux envoyés spéciaux de l'ASEAN de se rendre en visite et de se rencontrer partie prenante en Birmanie. Le président Joko Widodo a préparé 3 mesures pour anticiper l'influence de la politique sur l'économie nationale, dont l'une consiste à augmenter la production de produits de base. Dans sa déclaration de mardi 31 octobre, le président a déclaré que la production des produits de base était encouragée afin que les prix de vente n'augmentent pas si l'offre augmente. Le président a également ordonné au ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, de se concentrer sur les produits à base de riz au cours de l'année politique, même si les prix du riz n'ont pas augmenté. Une autre étape importante préparée par le président est de s'appuyer sur les chefs de région pour anticiper l'année politique, notamment son impact sur l'économie régionale. Auparavant, le président Joko Widodo avait convoqué les chefs régionaux pour leur transmettre un certain nombre d'orientations importantes avec les élections de 2024, au cours desquelles le président avait demandé aux chefs régionaux d'intervenir en cas d'augmentation des prix. L'envoyé palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a déclaré que 31 octobre, lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU que Gaza est actuellement l'enfer sur Terre. Comme l'a répondu Anadolu, il a déclaré que les 2,3 millions de Palestiniens à Gaza subissaient des souffrances que personne ne devrait ressentir, tout en affirmant qu'ils étaient encerclés et bombardés. La moitié des maisons à Gaza sont actuellement endommagées ou détruites à laquelle des frappes aériennes israéliennes. Et plus de 1,4 million de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. Plus de 8 000 Palestiniens ont été tués jusqu'à présent, dont plus de 3 000 dans le sud de Gaza, où Israël a forcé des centaines de milliers de personnes à se déplacer. Il a déclaré que le chiffre pourrait augmenter en raison de chaque minute de retard dans l'action visant à mettre fin aux attaques intensives, comme le peuple palestinien. L'envoyé a appelé les États membres à agir maintenant, affirmant que les Palestiniens à Gaza sont confrontés à la mort chaque jour et chaque nuit. Les gouvernements indonésiens et australiens ont discuté des efforts visant à accroître la coopération en matière de questions consulaires, juridiques et de sécurité entre les deux pays lors de la 11e réunion de consultation consulaire et diplomatique conjointe JDCC à Denpasar, Bali, du 30 octobre au 2 novembre 2023. Chef du bureau régional du ministère du droit de Bali et des droits de l'homme, Romi Udianto à Denpasar, a déclaré mardi que cette réunion visait à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et à promouvoir une coopération plus étroite dans divers domaines. Romi a souligné l'importance de la coopération dans la gestion des affaires consulaires, la protection des citoyens et l'augmentation de la mobilité des citoyens des deux pays. À cette occasion, les deux délégations ont discuté des services d'immigration juridique et des droits de l'homme, ainsi que de l'orientation effectuée dans les établissements correctionnels, centres de détention. Les résultats de la réunion serviront de base à la planification de la coopération entre les deux pays dans les prochaines années. Le ministre de Tourisme et de l'Économie Créative, Sandiaga Salahuddin Uno, estime que la tenue du championnat du monde de jet ski à Kobe 2023 peut avoir un effet multiplicateur positif sur le secteur touristique indonésien. Ceci, selon Sandiaga, reflète le succès du championnat du monde de F1 Power Boat 2023 F1H20, qui s'est également déroulé sur le lac Toba en février dernier. Sandiaga Jakarta a déclaré mardi que l'événement avait eu un très grand effet multiplicateur. Le championnat du monde de jet ski aquabike aura lieu du 22 au 26 novembre 2023. Cette année, le championnat du monde de course de jet ski s'est déroulé pour la première fois sur le lac Toba et a impliqué 4 districts, à savoir la régence de Toba, la régence de Karo, la régence de Dairi et la régence de Samosir. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Chef d'état-major de l'armée candidat au poste de commandement de TNI ». Avec moi, Audrey. Le président de la Chambre des représentants indonésienne, Puan Maharani, lors d'une conférence de presse au Parlement de Jakarta mardi 31 octobre, a annoncé que le chef d'état-major de l'armée indonésienne, Kasad, le général de l'armée nationale indonésienne TNI, Agus Subianto, était le seul candidat à remplacer le commandant de TNI, l'amiral Yudo Margono, qui prendra sa retraite le 26 novembre 2023. Le nom d'Agus Subianto a été mentionné dans la lettre du président concernant le candidat au poste de commandant en chef de TNI, qui a été soumise directement à la Chambre des représentants par le ministre d'État de la République d'Indonésie, Pratikno. La présidente du Chambre des députés de la République d'Indonésie, DPR, Puan Maharani, a en outre expliqué que le DPR suivrait cette question conformément aux mécanismes existants, à savoir charger la commission compétente de mettre en œuvre le mécanisme de remplacement ou de nomination d'un nouveau commandant de TNI. La nomination d'Agus Subianto comme candidat au poste de commandant de TNI pourrait surprendre certains Indonésiens. En effet, le général Agus Subianto a été nommé il y a seulement quelques jours, soit le 25 octobre 2023. Chef d'état-major de l'armée, cependant, le président a la prérogative de choisir le commandant de TNI. Le coordonnateur du personnel spécial présidentiel, Hari Dwipayana, a révélé la raison pour laquelle le président a choisi Agus Subianto. Selon lui, le président considère les qualifications de rang, le leadership, le professionnalisme, la rotation interdimensionnelle ainsi que les besoins stratégiques de la défense nationale. Hormis ces aspects, il s'avère que la figure Agus Subianto n'est pas étrangère au président Joko Widodo. Il se connaissait déjà lorsque Joko Widodo était encore maire de Solo et Agus Subianto était commandant du district militaire de Surakarta de 2009 à 2011. Lorsque Joko Widodo était président, Agus Subianto est devenu commandant en chef de Paspampres en 2020. Ici, l'aspect de confiance est en effet important pour le président lors de la nomination du commandant de TNI. Avec cette confiance, le président pour travailler avec le commandant de TNI pour maintenir l'intégrité et l'unité de la République d'Indonésie. De plus, le commandant de TNI a actuellement la tâche difficile de superviser les élections de 2024 et le changement de direction de l'État. Bien accomplir cette tâche tout en maintenant la neutralité de TNI lors des prochaines élections. De cette manière, le peuple peut participer avec joie aux élections qui sont souvent qualifiées de partis démocratiques, parce qu'ils se sentent en sécurité et à l'aise avec la province de TNI et la police indonésienne, Polri, qui les garde. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 1er novembre 1963, coup d'état du sud vietnamien. Le président Ngo Dinh Diem a été pris pour cible par des groupes de l'armée de la République du Vietnam qui étaient en désaccord avec la politique face à la crise bouddhiste et aux attaques Viet Cong menées par le régime. Le 1er novembre 1963, Diem est encerclé par les rebelles au palais présidentiel. Diem, qui n'a reçu que la protection de ses frères, a tenté de s'échapper par le tunnel souterrain qu'il a construit. Cependant, Diem a finalement été arrêté. Ce coup d'État a été déguisé par le général Luang Van Minh et a commencé. Diem a été capturé et exécuté le lendemain avec son frère et ses conseillers. Passons maintenant à l'événement du 1er novembre 1981, indépendance de l'État d'Antigua et Barbuda. Antigua et Barbuda est un pays insulaire situé dans l'est de la mer des Caraïbes. Christophe Colomb débarqua lors de son deuxième voyage en 1493 et nomma l'île Antigua. Initialement, ces îles étaient habitées par les Espagnols et les Français. L'Angleterre a ensuite formé une colonie en 1667 en déplaçant des esclaves irlandais catholiques à Antigua. Le pays est devenu indépendant de la Grande-Bretagne le 1er novembre 1981 et Verre Bird en est devenu le premier ministre. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 1er novembre, la journée de l'innovation d'Indonésie, HII, est célébrée. Le 1er novembre 2015 est la détermination la journée de l'innovation d'Indonésie, HII. L'initiateur de la journée de l'innovation d'Indonésie est Terra Foundation. À cette date, cette agence a donné le prix Record Business au REBI aux individus qui sont considérés comme ayant un produit innovant. Cet événement a initié la naissance de la Journée indonésienne de l'innovation HII. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, Congrès mondial de l'hydroélectricité WAC 2023, l'espoir de l'Indonésie de surmonter les défis du développement des centrales hydroélectriques. Le président Joko Widodo a officiellement ouvert le Congrès mondial de l'hydroélectricité 2023 qui s'est tenu au centre de congrès de Nusa Dua à Bali, BNDCC, la région de Badung en province de Bali, mardi le 31 octobre 2023. Dans son discours, le président Jokowi a espéré que le forum pourrait produire des recommandations politiques pour une terre plus durable.
Tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya.
J'espère que ce congrès mondial de l'hydroélectricité pourra devenir un forum collaboratif qui produira des recommandations politiques et augmentera les investissements pour l'utilisation de l'énergie hydraulique pour une économie verte durable. Citant le site officiel du ministère de l'énergie et des ressources minérales précédemment, à l'ouverture de la séance plénière du Congrès mondial de l'hydroélectricité WAC 2023, mardi 31 octobre, le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, Arifin Tasrif, a déclaré que les centrales hydroélectriques contribuent au système électrique indonésien depuis plus de 100 ans. Actuellement, le rôle de l'hydroélectricité devient de plus en plus important dans les efforts visant à accélérer la transition énergétique de l'Indonésie pour atteindre l'objectif de zéro émission nette NZE en 2060. Le ministre Arifin a déclaré que le congrès auquel ont participé plus de 43 pays et plus de 300 entreprises devrait permettre de surmonter divers défis liés au développement des centrales hydroélectriques et d'accroître la collaboration constructive à l'échelle mondiale. Le ministre Arifin a en outre expliqué que l'Indonésie dispose d'un potentiel hydroélectrique de 95 gigawatts. Actuellement, la capacité installée atteint 6,7 gigawatts. En 2030, le développement des centrales hydroélectriques devrait atteindre plus de 10 gigawatts et à l'avenir, ce chiffre sera augmenté pour atteindre 72 gigawatts en 2060. Pendant ce temps, pour le pompage turbinage, il atteindra 4,2 gigawatts. Selon le ministre Arifin, l'hydroélectricité est un type d'énergie renouvelable qui peut être utilisé comme charge de base ou charge électrique de base, est également comme solution à l'intermittence des énergies renouvelables variables telles que l'énergie solaire et éolienne dans le réseau électrique. Le gouvernement indonésien donne actuellement la priorité au développement d'un super réseau de transmission pour améliorer la connectivité entre îles. Il est encore plus important d'encourager l'utilisation de sources d'énergie hydroélectrique et d'autres énergies renouvelables en Indonésie. Arifin Tasrif a ajouté que la construction de plusieurs projets de centrales hydroélectriques en Indonésie est également en cours, à savoir la centrale hydroélectrique PLTA de Jati Gede d'une capacité de 110 MW et la centrale hydroélectrique d'Asahan 174 MW qui sont ciblées pour la date d'exploitation commercial COD ou la date de début d'exploitation de la centrale électrique pour distribuer énergie électrique en 2024. Puis, les centrales hydroélectriques Posangan en Edo, 88 MW, et la centrale hydroélectrique de Merangin, 350 MW, qui seront en COD en 2025, ainsi que la centrale hydroélectrique de Batang Toru, 520 MW qui seront en COD en 2026. Grâce au Congrès mondial de l'hydroélectricité WAC 2023, le ministre Arifin espère que toutes les parties pourront renforcer la coopération pour accroître l'utilisation d'innovations technologiques et l'accès à un financement compétitif. Le Congrès du WAC a lieu du 31 octobre au 2 novembre 2022 sur le thème favoriser une croissance durable. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, nous à Tenggara Occidentale possède de nombreuses destinations touristiques intéressantes et magnifiques à visiter, dominées par des attractions naturelles, des villages traditionnels et des îles. L'île de Moyo est l'une des destinations touristiques naturelles de Nusa Tenggara Occidentale et est souvent mentionnée comme un lieu de vacances caché pour les célébrités mondiales. Plusieurs célébrités mondiales qui ont passé des vacances sur l'île de Moyo sont Lady Diana, Mick Jagger, David Bowie et David Beckham. L'île Moyu est très charmante avec une beauté naturelle très exclusive. Cette île compte plusieurs destinations touristiques de premier plan, entre autres la cascade Matajitu, la cascade Senggalo, la plage de Tanjung Pasir et bien d'autres. Il y a une histoire intéressante à propos de la cascade Matajitu sur l'île Moyu, célèbre pour son surnom de Queen Waterfall. Cette mention est apparue parce que Lady Diana avait visité cette destination touristique. Cette cascade est spéciale car elle possède de nombreuses stalactites et stalagmites qui décorent la surface de la cascade. En fait, l'île Moyu est située au nord de Sumbawa, à l'ouest de Nusa Tenggara. Administrativement, l'île Moyu est située dans le village de Labuan Haji et le village de Sebotok, le district de Labuan Badas, la région de Sumbawa. L'île Moyu a une superficie de 350 km². Cette île est flanquée d'une étendue de mer ouverte avec vues sur les plages de sable blanc et les eaux calmes. L'île Moyu est une destination exclusive pour la classe supérieure. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Satu yang ku perlu, ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling, karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu. Hingga ku pasti menunggu selama apapun itu, demi cinta yang ku rasakan yang hanyalah kepadamu. Yakinkan hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu. Oh,
cintamu takkan terbagi, takkan berpaling, karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu, oh, karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu, oh, karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara. Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara. Le plus ancien site de la ville minière de l'Asie du Sud-Est. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Le plus ancien site de la ville minière d'Asie du Sud-Est. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et une guide touristique du site de la mine de charbon d'Ombilin. La guide touristique informe que la mine de charbon d'Ombilin est la plus ancienne ville minière d'Asie du Sud-Est. Bonne écoute.
Tambang batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara.
Kapan situs ini dibangun?
Situs ini mulai dibangun pada tahun 1888.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara. Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara. Le plus ancien site de la ville minière d'Asie du Sud-Est. Je viens prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Tambang batubara Ombilin. Tambang batubara Ombilin. Mine de charbon d'Ombilin. Merupakan. Merupakan et. Situs. Situs. Site. Kota pertambangan. Kota pertambangan, ville de charbon, paling tua, le plus vieux, di Asia Tenggara, en Asie du Sud-Est. Tambang batubara Ombilin, merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Tambang batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. La mine de charbon d'Ombilin est le site de la plus ancienne ville minière d'Asie du Sud-Est. Tahun 1888. Tahun 1888. L'année 1998. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. La mine de charbon d'Ombilin est le site de plus ancienne ville minière d'Asie du Sud-Est. Dans ce discours, il y a l'expression paling tua, le plus ancien. Le mot paling, paling plus, est utilisé pour marquer une comparaison entre plus de deux choses ou objets. Dans ce discours, le mot paling, paling plus, suivi d'un adjectif à savoir toi, toi ancien, pour comparer que le site de la site charbonnière d'Ombilin est le plus ancien parmi les autres sites de villes minières d'Asie du Sud-Est. Chers amis, allons, écoutons un autre exemple d'utilisation du mot paling, paling, la ou le plus. Pour marquer une comparaison entre plus de deux choses ou choses. Paling besar, le plus grand. Danau Toba adalah danau paling besar di Sumatera. Danau Toba adalah danau paling besar di Sumatera. Le lac Toba est le plus grand lac de Sumatra. Paling luas, le plus étendu. Taman Nasional Kerinci, Seblat, merupakan taman nasional paling luas di Sumatera. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan taman nasional paling luas di Sumatera. Le parc national de Kerinci Seblat est le plus grand parc national de Sumatera. Batubara ou charbon est un mot composé des mots batu, batu, pierre. Et bara, bara, charbon. Sur la base de ses caractéristiques physiques, le mot bara, bara, charbon, peut être interprété comme une pierre brûlante, car il peut devenir un combustible après être passé par la combustion. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien. Pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Tambang batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara.
Kapan situs ini dibangun?
Situs ini mulai dibangun pada tahun 1888.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être très fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Java Oriental intitulée Malang Pancen Rame. La chanson intitulée Malang Pancen Rame a été composée par Puri Bhendika Kurniawan. La chanson Malang Pancen Rame décrit l'atmosphère de la ville de Malang, qui est pleine de joie et d'excitation. les paroles mentionnent également diverses destinations touristiques, telles que Coban Rondo, qui est une cascade située à 12 km de Malang. Et cette chanson a également mentionné des choses intéressantes à Malang, comme le soto ayam, la soupe au poulet et des chips de manioc. Pour chers auditeurs, voici une chanson de Java oriental intitulée Malang Pancen Rame, chantée par Every Handika. Bonne écoute!
Sakan jane asing do pacaran gandengan tangan ce mesra e kota Malang kutane pancen rame pasarindo enggak jange panggonane kulon alun alun ngeglo masjid jame ojo lali arjo sari terminale tahu tempe sanana panggonan biru ning sumber manjing ojo kliru songgoriti manggon ning kutha Batu acoban rondo ning pucon pancen ono pacul mati mas pancen duduk ati ojo bingung kowe kari pilih ngendi Tak
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.